Luxe Radio, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, c'est Heure Essentielle qui vous accompagne. Et tout de suite, votre rendez-vous, mon corps, ma vie, avec Hichem Benabastargi, un gynécologue obstétricien à Casablanca. Il nous a rejoint en studio. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on s'intéresse aujourd'hui au saignement du premier trimestre de grossesse. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Bien, avant de vous laisser la parole, Asma, j'invite bien évidemment les auditeurs à poser leurs questions aussi sur l'application Lux Radio.
Alors, Hichem Benabastargi, en début de grossesse, les saignements sont, on va dire, fréquents chez les femmes enceintes. Oui. Est-ce qu'on dispose de chiffres sur la prévalence de ces saignements chez les femmes enceintes? Et puis, quand on dit en début de grossesse, c'est à partir de 0 jusqu'à quelle semaine exactement?
Alors, le début de grossesse est de 0 à 13 semaines, c'est-à-dire les 3 premiers mois. C'est la période de ce qu'on appelle de d'embryogénèse, c'est-à-dire que l'embryon se constitue. Après, ça devient un fœtus dont tous les organes sont constitués et donc ils vont juste être en croissance. Donc cette embryogénèse qui peut mal se faire, il peut y avoir des fausses couches, il peut y avoir ce qu'on appelle des décollements trophoblastiques, il y a plein de causes de saignement. Et pour vous répondre à votre question, faut-il s'en inquiéter? Oui, parce que ça pourrait signifier quelque chose de grave, pas toujours, mais donc il faut s'en inquiéter. Mmh. Alors, question de fréquence, j'ai pas de chiffres, mais comme vous dites, c'est
20-30% de la population.
Environ. C'est quelque chose. Mais c'est pas forcément, c'est alarmant, il faut un examen, mais c'est pas forcément inquiétant. En fait, c'est souvent associé à la fausse couche, donc à la perte de la grossesse. Et donc, les femmes ont peur par rapport à ça. Mmh. Ça peut le signifier, mais il peut y avoir aussi d'autres causes, tant méchantes ou qui posent un problème, que des petits épiphénomènes sur lesquels il ne faut pas s'inquiéter.
Justement, c'est vrai qu'il n'est pas souvent possible de déterminer la cause exacte de ces saignements. Est-ce que vous pouvez nous renseigner tout de même sur quelques causes possibles?
Si, on peut déterminer la cause grâce à deux choses. Essentiellement, l'échographie endovaginale, qui va permettre de voir l'œuf et ses interactions, sa relation avec l'utérus, et aussi les bêta-ACG. Alors, grosso modo, si on élimine les autres causes d'infection cervicale, qui est assez rare, il y a grosso modo quatre causes de ces saignements. Ça peut être donc d'abord un décollement trophoblastique, c'est-à-dire le trophoblaste, c'est la structure qui n'appartient pas à l'embryon, mais qui appartient à l'œuf et qui va constituer ce qu'on appelle le futur placenta. Le placenta, ça va être l'organe d'échange entre le bébé, entre l'embryon et la femme. Donc au début, c'est tout ce trophoblaste. Ce trophoblaste peut ne pas être totalement collé à l'utérus et donc il peut saigner. Deuxièmement, ça peut être une fausse couche également. Troisièmement, ça peut être un problème de grossesse extra-utérine. C'est-à-dire que la femme est enceinte, mais pas dans son utérus. Et donc c'est une grossesse extra qui va poser des problématiques. Et donc cet endomètre dans son utérus va aussi subir quelques influences hormonales et il va saigner. Quatrième des diagnostics, ça va être ce qu'on appelle la molidatiforme, c'est-à-dire c'est une mauvaise grossesse où il y a ce qu'on appelle une dégénérescence kystique, c'est-à-dire ce trophoblaste, il va faire des kystes, il va faire des petits kystes sans grossesse réellement. Donc ce sont les quatre diagnostics.
Mais ça peut être aussi des règles anniversaires.
Non, les règles anniversaires, non, il n'y a pas de règles anniversaires. C'est une théorie, c'est-à-dire il y a une cause de ce saignement. Ce saignement est organique. Et je vous dis, ces règles...
Vous dites que les règles anniversaires n'existent pas?
Pour moi, n'existent pas. C'est un décollement. Parce que les règles, c'est quoi? Les règles, c'est la chute d'un endomètre, c'est-à-dire d'un tissu. Le tissu qui tapisse l'utérus, ce tapis, qui va chuter parce qu'il va mourir, parce qu'il y a une chute des hormones. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces règles? Parce qu'on est enceinte, et donc il y a des bêta-ACG, il y a l'hormone bêta-ACG qui est sécrétée par l'œuf, par ce trophoblaste justement, et qui dit au corps jaune et qui dit à...
Mais que dites-vous des femmes qui continuent à avoir leurs règles pendant les 3 premiers mois, les 4 premiers mois, alors qu'elles sont enceintes?
Je vous dis, c'est plutôt un décollement trophoblastique.
D'accord.
Ou bien d'autres choses. Mais il n'y a pas de règle anniversaire. Je veux dire, dans la physiopathologie de la chose, non. L'endomètre ne doit pas saigner.
Donc ceux qui ont inventé ce terme se sont trompés.
Pour moi, c'est une erreur. Mais je vous dis, c'est plutôt... Il y a une cause de cette... On peut saigner avec une grossesse qui évolue On peut très bien saigner, mais ce n'est pas des règles à l'anniversaire, c'est un problématique. Et généralement, c'est ce qu'on appelle le décollement trophoblastique, c'est-à-dire l'œuf qui n'est pas totalement accolé à la paroi utérine, le trophoblaste qui n'est pas totalement accolé et qui donc peut saigner tout en maintenant la grossesse.
Est-ce que ça peut être aussi des saignements anodins suite à un rapport sexuel, sans pour autant qu'il y ait justement ces causes graves?
Exactement, exactement. Je vous dis les quatre causes graves. Après, bien sûr, il peut y avoir d'autres causes, un ectropion, c'est-à-dire un éversement de la muqueuse du col qui va saigner au cours d'un rapport, une infection, un cancer, c'est des causes exceptionnelles et qu'on va retrouver rapidement à l'examen gynécologique. Donc, juste pour dire, il y a des causes. Les plus fréquentes, on les a dit. D'autres sont rares, mais tout saignement nécessite un examen gynécologique et une échographie pour rassurer ou au contraire faire le diagnostic d'une mauvaise grossesse. Qui n'évolue pas.
D'accord. Hicham Alabastagé, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui accompagnent justement ces saignements et qu'il faudrait surveiller de près?
La douleur. La douleur. Alors, saignement plus douleur, c'est anormal. Et vous vous dites, vous évoquez deux choses. Vous évoquez la fausse couche, bien sûr. La fausse couche, c'est un œuf clair, c'est-à-dire c'est une grossesse qui a commencé, qui était tout à fait normale, et pour une raison X, on ne sait pas, elle s'est arrêtée. Et donc, il y a eu un arrêt de développement du fœtus. Et quand vous allez chez votre gynécologue, vous allez voir donc un œuf, mais vide d'écho. Il n'y a pas d'écho embryonnaire. Ou à la rigueur, il y a un écho embryonnaire, mais il n'y a pas d'activité cardiaque. Donc, c'est une grossesse arrêtée. Et cette grossesse arrêtée va tomber, va finir par tomber. Et donc, quand elle va tomber, elle va d'abord donner des saignements, noirâtre au début, puis rougeâtre, et des douleurs, parce que c'est des douleurs liées à l'expulsion. C'est-à-dire, l'utérus se contracte de telle manière à éliminer cet œuf. Première des choses auxquelles on doit penser. Deuxièmement, la grossesse extra-utérine, qui est une grande simulatrice chez nous, les gynécologues. On a toujours peur de ça. C'est-à-dire que vous êtes enceinte, donc il y a les hormones. Il y a les bêta-ACG, il y a l'absence de règles, mais cette grossesse n'a pas niché dans l'utérus. Elle peut nicher le plus souvent dans 95% au niveau de la trompe, mais elle peut aussi nicher ailleurs, au niveau de l'ovaire, dans l'abdomen, au niveau du col. Et en se développant, elle va, comme il n'y a pas d'espace pour qu'elle se développe, eh ben, elle va faire saigner et elle va faire mal. Et quand on va faire une échographie, on ne va pas la trouver. Alors, dans une grossesse extra-utérine évoluée à environ 8 semaines, 9 semaines d'aménorrhée, eh ben, on doit constater quelque chose en intra-utérin. Donc, le fait qu'on ne le constate pas, on va le chercher ailleurs. Mais dans une grossesse jeune, où l'œuf est encore très petit, ça peut saigner. Et on doute, on ne sait pas, est-ce que vraiment c'est une grossesse intra-utérine qui est encore très petite ou est-ce que c'est une grossesse extra-utérine qui va évoluer. Et c'est là qu'on va faire le test des bêta-ACG. Les bêta-ACG, c'est une hormone sécrétée par le trophoblaste, par l'œuf lui-même, qui va dire au corps jeune, écoute, il y a une grossesse, je ne veux pas qu'il y ait de chute d'hormone. Et donc ces bêta-ACG, l'ACG va tenir la grossesse. Et des bêta-ACG normales, elles doivent évoluer, généralement, elles doivent doubler toutes les 48 heures. Je prends un taux, vous avez 1000, généralement, vous devez avoir au moins 2000 si vous refaites le test 48 heures après. Et donc, le fait de faire des bêta-ACG, ça va vous renseigner. Si les bêta-ACG chutent, vous aviez mûle et 48 heures plus tard, vous avez que 500, ça signe la grossesse arrêtée.
Ça, c'est intéressant à faire uniquement pendant le premier trimestre.
Tout à fait. Les bêta-ACG, après, ça n'a plus d'importance. Mais je vous dis, souvent, on trouve aussi ce qu'on appelle un décollement trophoblastique, c'est-à-dire ce trophoblaste qui n'est pas collé et qui peut saigner, des fois qui peut saigner beaucoup. Vous me rappelez une dame qui saignait beaucoup, mais vraiment, que j'ai vue trois fois en une semaine, et une fois même à minuit en clinique. Et elle saignait vraiment la rage, je dirais, j'étais vraiment inquiète. Et en faisant l'écho, eh ben, on voit une grossesse qui évoluait avec un col fermé. Et j'étais content de l'accoucher 9 mois plus tard. Alors que pour moi, c'était vraiment un saignement. Ça m'inquiétait, ça m'évoquait vraiment la fausse couche, cliniquement. Donc la douleur, qui est souvent accompagnée de ça... la douleur, le saignement, éventuellement, bon...
La température, peut-être ?
La température est plutôt signe d'infection. Bien sûr, on peut l'avoir, mais ce n'est pas fréquent. Mais quand on a une élévation de la température, on va plus rechercher donc, une cause infectieuse associée à cette fausse couche ou à une grossesse extra-utérine. Bien sûr, il peut y avoir une appendicite à côté associée, une salpingite. Mais généralement, pas vraiment la température. Essentiellement, la douleur et le... Alors, il y a autre chose qu'on appelle, par exemple, dans la molytatiforme, c'est pas très connu. La molytatiforme, c'est cette grossesse qui est là, mais ce trophoblaste, ce futur placenta, il va faire des vésicules, des petites kystes, comme des boules, comme des grappes de raisin. Et donc, ils vont se multiplier, comme ça, ce qu'on appelle une dégénérescence kystique, et elle va saigner. Et on peut retrouver, donc, un gru... Alors, les signes sympathiques sont très élevés, c'est-à-dire, elles sont très marquées. La femme va beaucoup vomir, va être donc les signes...
Ils sont très présents.
Ils sont très présents, elle va être très fatiguée, somnolente, parce que c'est une grosse... Il y a beaucoup de bêta-ACG. Tous ces signes sympathiques sont liés au bêta-ACG. Et donc, et on peut retrouver éventuellement des petits vésicules, des petites choses émises par le vagin. Donc ça signe la molytatiforme directement.
Très bien. Alors, les professionnels estiment que 50% des femmes avec des saignements avant 14 semaines feront une fausse couche. Est-ce que vous validez ce chiffre ?
Je n'ai pas ce chiffre, mais oui, c'est la fausse couche, au début, elle est difficile. C'est difficile de s'assurer que cette grossesse que vous voyez, cette petite œuf que vous voyez, qui correspond à un œuf de 4 ou 5 semaines, eh ben, est-ce que ça correspond à ça ? Ou est-ce que ça correspond à une grossesse antérieure, qui est plus âgée, mais qui est arrêtée? D'accord? Parce qu'à 5 semaines, l'image normale d'un œuf, c'est juste une tache noire. Il n'y a pas d'embryon qui est visible. D'accord? Donc, c'est difficile de nous dire, à l'échographie, c'est une grossesse arrêtée ou c'est une grossesse jeune qui évolue. Le seul moyen de le savoir, c'est refaire une échographie une semaine, voire 15 jours plus tard. Et là, si c'est une grossesse qui évolue, on doit voir cette évolution. C'est-à-dire, il doit y avoir apparition d'un embryon, d'une activité cardiaque. C'est ça qui nous rassure. Si on ne le voit pas, mais sur l'instant T, on ne peut pas décider ça. Et donc, je vous dis, la fausse couche va souvent se terminer donc par des saignements, des contractions. Mais on peut pas, sauf si on voit un col ouvert et un saignement et un œuf, donc des pertes qui sont en train de venir... Donc, ce qui signe la fausse couche en cours, à part ça, on ne peut pas le décider tout de suite. Alors, je vous dis, on fait une écho, on reconfirme, on fait une écho, on reconfirme 15 jours plus tard. Éventuellement, on fait des bêta-ACG tout de suite. Comme ça, on peut trancher. C'est une grossesse qui évolue ou c'est une grossesse arrêtée, une fausse couche, ou c'est une grossesse extra-utérine. Mais sinon, je veux dire, sur l'instant T, on peut pas trancher.
Alors, Hichem El Abastahaji, on parle depuis tout à l'heure des saignements du premier trimestre de grossesse, hein, des saignements qui peuvent être anodins, sans gravité, ou bien qui peuvent être graves, d'où l'utilité justement de consulter. Qu'en est-il des saignements du deuxième et du troisième trimestre,
hein, Je voulais faire tout un sujet.
rapidement, nous donner une idée, mais on pourra...
Il y a d'autres causes, il y a trois causes essentielles, le placenta previa, l'hématome rétroplacentaire, et après il y a aussi l'hémorragie de Benkiser. C'est d'autres causes qu'il faut aussi éliminer, qui sont plus
mais là pour le coup grave. C'est grave,
oui c'est grave, bien sûr c'est grave, mais comme vous dites, ça peut être aussi un saignement au cours d'un rapport sexuel, un fibrome qui est là, qui va saigner. Il y a d'autres causes, mais l'essentiel, mais là, c'est que là le bébé, on peut au moins encore l'opérer et sortir un bébé, alors qu'au premier trimestre on ne peut pas faire grand chose. Il faut constater. Alors, quelque chose qui est important, que le message que je voudrais passer à vos auditrices, c'est que quand vous saignez, la première des choses, se reposer, arrêter toute activité. Parce que le saignement vient de contractions utérines. Parce qu'il y a beaucoup de saignements qui viennent d'un surmenage, de la femme qui se sait enceinte et qui se dit, bon, c'est pas grave, et qui est très active. Et donc, la première des choses, c'est se reposer, parce que c'est le meilleur traitement. Avant les ovules de progestérone que l'on donne souvent pour mettre au repos cet utérus, le premier traitement, c'est le repos. Parce que le repos va lui-même faire que les contractions vont s'arrêter et donc que le saignement va diminuer. Et après, bien sûr, consulter.
Merci beaucoup, Hichem El Abastahaji. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. On vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sachez que vous pouvez retrouver cette interview dans son intégralité en podcast sur l'application Lux Radio